3 morts et 16 blessés, c'est le bilan de l'attaque terroriste qui a secoué la France hier. Guerre commerciale annoncée entre la Chine et les USA. L'Australie espère rester en dehors des affrontements entre les deux géants. Et au Mali, le Premier ministre effectue une visite historique sans incident à Kidal. Trois morts et 16 blessés, c'est le bilan de trois attaques terroristes qui ont frappé la France hier. La série d'attaques a commencé dans la matinée de vendredi à Carcassonne par le vol d'une voiture dont le passager a été tué et son conducteur grièvement blessé. Et l'attaque s'est poursuivie par des tirs contre des CRS dont l'un a été touché à l'épaule. Elle s'est achevée vers 14h45 à Trèbes, quelques kilomètres plus loin, par une autre prise d'otage dont l'auteur a été abattu par les forces de l'ordre. Un hommage particulier a été rendu à un lieutenant-colonel de la gendarmerie, Arnaud Beltram, qui a échangé sa place contre celle des otages du supermarché de Trèbes avant d'être grièvement blessé lui-même. Son acte a en tout cas été unanimement salué, notamment par le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb. On l'écoute.
Je veux saluer le courage du lieutenant-colonel qui est gravement blessé et qui s'est substitué à l'otage que le terroriste tenait pour se protéger. Donc un acte d'héroïsme comme en sont coutumiers les gendarmes, les policiers qui s'engagent au service de la nation pour protéger nos concitoyens.
Les trois attaques ont été menées par le même homme qui s'est réclamé de l'organisation État islamique. Il était connu des services judiciaires. François Molin, procureur de la République de Paris, nous donne des éléments de détail de son parcours.
L'auteur est un habitant de Carcassonne, Radouane L., né le 11 avril 1992 au Maroc, fiché S depuis 2014. Il est connu de la justice pour des faits de droit commun. Il a en effet été condamné par le tribunal correctionnel de Carcassonne le 29 mai 2011 à une peine de 1 mois d'emprisonnement avec sursis pour une infraction de port d'armes prohibées. Et il a été à nouveau condamné le 6 mars 2015 pour usage de stupéfiants et refus d'obtempérer à une peine d'un mois d'emprisonnement, peine d'emprisonnement qui a été exécutée effectivement en août 2016 à la maison d'arrêt de Carcassonne. En 2016 puis en 2017, il faisait l'objet d'un suivi effectif de la part des services de renseignement, suivi qui n'avait permis de mettre en évidence aucun signe précurseur pouvant laisser présager un passage à l'acte terroriste.
Et dans une réunion de l'Organisation mondiale du commerce, non, plutôt avant de passer à cette histoire de l'Organisation mondiale du commerce, on reste sur les sujets en France, notamment sur les trois attaques qui ont été menées par le même homme qui s'est réclamé donc de l'Organisation État islamique. Bien, le président de la République a rappelé que la menace terroriste est toujours élevée et cela avait été l'objet des discussions en Conseil des ministres.
Sur la menace terroriste, nous n'avons jamais fait mystère, et le ministre de l'Intérieur l'avait rappelé il y a quelques semaines, du fait que cette menace demeure élevée. Et elle demeure élevée essentiellement parce que nous avons, depuis plusieurs mois, une menace qu'on appelle endogène. C'est-à-dire que vous avez beaucoup d'individus qui se sont radicalisés eux-mêmes, qui ont des profils psychiatriques variés. Certains sont des gens qui relèvent de pathologies, d'autres non. Je ne sais pas ce qu'il en est pour le terroriste d'aujourd'hui. Mais la caractéristique, c'est que vous avez des individus identifiés comme dangereux qui sont suivis de très près. Et donc, dans le cadre de l'enquête, évidemment, il sera rendu compte des éléments de diligence et du suivi qui avaient été effectués, mais qui constituent une menace terroriste dans le pays.
Il faut signaler, donc, je vous rappelle que l'homme s'était réclamé de l'État islamique et l'État islamique lui-même a revendiqué ses attaques sur le sol français. Et à présent, sur donc les tarifs et la guerre commerciale annoncée entre les USA et la Chine. Bien, dans une réunion de l'Organisation mondiale du commerce, l'Australie est un des pays qui ont critiqué les tarifs imposés par le président Donald Trump sur l'acier et l'aluminium. Le Brésil, le Japon ainsi que l'ensemble des pays de l'Union européenne ont aussi émis des critiques lors des débats entamés à Genève à l'initiative de la Chine et de la Russie. Bien, le ministre indien du commerce, Suresh Prabhu, ajoute sa part des critiques aux tarifs imposés par les USA.
Countries are trying to take certain actions which in long term will harm everybody. And therefore we must ensure that we keep the global trade growing, which benefits all the countries.
Il faut signaler que dans le cadre de cette guerre, la Maison Blanche avait annoncé cette guerre économique. Donc la Maison Blanche avait annoncé hier que l'exemption accordée à l'Australie et à certains pays sur les tarifs à l'importation a été accordée à titre temporaire. Cette exemption sera revue à la suite des négociations qui devraient être complétées d'ici le 1er mai prochain. Et entre-temps, la Chine et les USA ont menacé de se livrer une guerre commerciale dont les dégâts se chiffrent en plusieurs dizaines de milliers de dollars et le Premier ministre Turnbull refuse de donner son avis quant à l'éventuelle guerre commerciale donc entre les deux pays et se contente d'exprimer l'espoir de trouver une solution constructive.
Our focus should be on supporting good constructive negotiation. President Trump has talked about how much he respects President Xi. I've been with them and they do. The two men see eye to eye in every respect. They're about the same height, both big guys. And I look forward to them being able to negotiate, but I don't want to speculate on actions that haven't been announced.
Et entre-temps, aujourd'hui, des étudiants de Sydney et Melbourne vont manifester dans les rues de ces deux grandes villes australiennes pour marquer leur solidarité avec les étudiants américains dans le cadre de la protestation contre la loi sur le port d'armes aux USA. Leonie King, cette étudiante de Melbourne qui organise la manifestation dans cette ville, estime que les parents et le peuple du monde entier devraient se joindre à ce mouvement étudiant.
They are inspired by the fact that these kids are armed and dangerous with their iPhones and that, you know, there is hope for a better world. So what it holds out is the prospect that of real harm, yes, there is a clear and present danger, not just in the US, but certainly in Australia. It only takes one very unwell person who gets access to a firearm to actually do significant harm.
Et aux États-Unis, il faut signaler que plus d'un million d'étudiants étaient rassemblés à Washington pour demander aux parlementaires américains de prendre des mesures à même de stopper la violence liée au feu, aux armes à feu. Et cette manifestation fait suite, on le rappelle, à la fusillade le mois passé dans une école de Floride, une fusillade qui avait coûté la vie à 17 personnes. On écoute donc une des manifestantes des étudiantes aux États-Unis près de la Maison Blanche à Washington.
To see all these people who aren't from Douglas, who don't really know, who didn't live through this experience, be as empowered as we are and help us fight for this cause as much as we're trying to get this movement started, it's really amazing.
Et des États-Unis ont fait un saut sur le continent africain. Bien, cela faisait 4 ans qu'un chef du gouvernement du Mali ne s'était plus rendu dans la ville du Nord, dans la région de Kidal. Bien, Soumeilou Boubey Maïga l'a fait hier. Il était accompagné de 8 de ses ministres. C'était un déplacement sous très haute surveillance et il était escorté par l'ancienne rébellion ainsi que des combattants de la CMA. C'était une visite qui n'était pas sans risque. La veille, la base de la MINUSMA avait été une fois de plus visée par des assaillants et une attaque qui avait fait 5 blessés parmi les soldats français. Reportage depuis le nord du Mali, Serge Daniel de RFI.
L'hélicoptère atterrit dans la cour de la mission de l'ONU à Kidal. Ici, l'aéroport est impraticable. Du ventre de l'appareil sort le premier ministre malien. Il sourit pour l'accueillir, le représentant spécial de l'ONU au Mali, Mahamat Saleh Anadif, qui a tout fait pour la réussite de la mission. Les deux hommes rentrent dans le véhicule, le cortège est très sécurisé. Soumeilou Boubey Maïga et sa délégation rentrent dans la ville. Des hommes habillés en tenue militaire. Ce sont les combattants de la CEMA, la coordination des mouvements de l'Azawad. Certains se mettent au garde-à-vous devant le cortège. Visite au chef traditionnel de Kidal, l'ami local Mohamed Aguintala. Kidal, les rues ne sont pas très animées. Quelques nouvelles constructions. Programme phare de la journée, Soumeilou Boubey Maïga rencontre les populations. Dans la salle, des personnes tiennent en main le drapeau malien. Deux autres, celui de l'Azawad. Le logo de la CEMA est également visible. Le représentant des jeunes de Kidal prend la parole. Il demande à l'État d'aider la jeunesse. C'est au tour du représentant de la CEMA. Il affirme « Nous avons bon espoir qu'après cette rencontre, les choses avanceront ». Le Premier ministre, à son tour, parle aux Kidalois. Il annonce des aides, rappelle que le Mali est indivisible, mais que la diversité sera respectée.
En Syrie, le gouvernement déclare contrôler désormais 90% de la Ghouta orientale. C'était le dernier fief rebelle aux portes de Damas. Cette, donc, situation intervient après plus d'un mois de bombardements meurtriers qui ont abouti à des accords d'évacuation parrainés par la Russie avec des groupes d'insurgés. Bien, hier, l'armée syrienne a commencé une vaste opération de ratissage dans la localité de Arasta, 5 ans après en avoir été chassée par les insurgés. Quelques heures plus tôt, le dernier groupe de civils et des combattants avait évacué ce bastion rebelle situé à la périphérie nord-est de Damas. Quelques 7000 personnes, dont 1500 insurgés, ont quitté la ville en 2 jours en portant uniquement leurs armes individuelles. Et retour en Australie, et pour parler du temps cette fois-ci, bien l'ouragan Nora devra se muer en une tempête de catégorie 4 alors qu'il se rapproche de Cape York dans l'extrême nord du Queensland. On s'attend à des pluies torrentielles et des vents très violents pouvant atteindre des vitesses de 170 km/h lorsque cette tempête va atteindre les côtes demain matin. Le coordinateur des services de secours de l'État du Queensland, Bob Guy, appelle les habitants à prendre des précautions et à ne pas se laisser tomber dans la complaisance.
It's very easy to become complacent when you grow up and live in an area that's used to cyclones. The Gulf's used to cyclones, but as the Premier said, it's been 17 years since a cyclone has crossed the coast. Please don't become complacent. Think about tidal surge and what it means there. There's a range of communities from 200 people, isolated properties, but right through to Mornington Island where we've got 1,000 or 1,500 people.
Et la météo à travers les grandes villes australiennes, eh bien Perth à 29 degrés, Adélaïde à 32 degrés, Melbourne à 24, Hobart 21 degrés, Canberra 24, Wollongong 25 degrés, Sydney 27 degrés, Newcastle 26 degrés, Brisbane 27 degrés, Cairns 29 degrés et Darwin 34 degrés. Et sur les marchés financiers, un dollar australien vous achète aujourd'hui 77 centimes de dollars US et 62 centimes d'euros. À présent, un rappel des titres de l'actualité de ce samedi. 3 morts et 16 blessés, c'est le bilan de l'attaque terroriste qui a eu lieu hier sur le sol français. Guerre commerciale annoncée entre la Chine et les USA, l'Australie espère rester en dehors des affrontements entre les deux géants. Et au Mali, le Premier ministre effectue une visite historique sans incident à Kidal. On fait une courte pause avant de passer au magazine des sports.